posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonoresources.gouv.fr/collectivité.
BFM Business, 500 millions d'Européens, avec Euranet Plus. Yann Anthony Noguès.
Bonjour et bienvenue à Bruxelles pour ce nouveau numéro de 500 millions d'Européens. Les pantouflards de Bruxelles donnent-ils raison aux populistes? Bien entendu, on pense aux affaires Barroso et Cruz, José Manuel Durão Barroso, l'ancien président portugais de la Commission européenne qui, avant l'été, juste après le Brexit, a annoncé qu'il rejoignait le géant financier Goldman Sachs. Et puis Nelly Kroes, la néerlandaise, l'ancienne commissaire européenne en charge de la concurrence, puis du numérique, qui officiait sous les ordres de Barroso, qui elle, eh bien, on a appris qu'elle était directrice d'une société offshore dans l'immobilier notamment quand elle était commissaire européenne. Bonjour Sylvie Goulard.
Bonjour.
Vous êtes eurodéputée ALDE, l'Alliance des libéraux et démocrates européens. Cette histoire de pantouflage, donc le pantouflage en anglais c'est le revolving door, c'est quand en gros des responsables du public passent dans le privé ou bien du privé qui passe dans le public, enfin bref, quand il y a potentiellement des conflits d'intérêts. Est-ce que c'est une question, en deux mots, culturelle avant tout? On n'a pas le sentiment que ça dérange tout le monde en Europe, mais en France, ça nous dérange.
Il y a deux choses. Il y a la tradition culturelle de passerelle entre le public et le privé, et puis il y a l'attitude face à ce qui peut être frauduleux. Je pense qu'il faut distinguer un peu les deux sujets.
Là, en l'occurrence, on va en reparler, Barroso, c'est pas forcément frauduleux. C'est pas tout à fait moral. On va en parler. Bonjour Emmanuel Foulon.
Bonjour.
Vous êtes conseiller en communication ici en Belgique pour les socialistes, et Bruxelles a contre-attaqué cette semaine avec un train de mesures d'annonce pour dire nous à Bruxelles on va laver plus blanc que blanc.
Oui, ben c'est l'idée. Je pense que sincèrement, les pays européens sont en train de peut-être aussi de profiter de cette faiblesse de la Commission européenne. On a parlé tout à l'heure des dossiers Cruz, des dossiers Barroso. On sent une Commission qui n'est plus vraiment en verve et peut-être aussi des tentatives de peut-être pour une nouvelle Europe, qui sait.
On sera rejoint tout à l'heure par notre ami Jean Quatremer de Libération, ainsi que Maya de la Baume de Politico ou encore Éric Scholl de Courrier International. Pour l'heure, on discute du pantouflage à Bruxelles. La pantoufle n'est pas encore de verre. Voilà pour ceux qui aiment bien Charles Perrault. Demandez le programme de 500 millions d'Européens, hashtag 500ME. Alors, on parlait de ces différences culturelles. J'aimerais bien qu'on approfondisse cette question. Sylvie Goulard, dans les pays nordiques ou même en Espagne, dans les pays ibériques, au Portugal, bon, c'est assez courant de passer du public au privé. Rappelons que José Manuel Barroso est portugais. Dans les pays anglo-saxons, là, c'est carrément la norme. Ça pose surtout problème en France. Le cas Barroso, d'ailleurs, a surtout provoqué l'indignation dans les pages de Libération.
Non, pas seulement dans les pages de Libération. En Belgique aussi, il y a eu des personnes qui se sont insurgées. Vous avez des journaux portugais qui ont aussi beaucoup traité cette question. Je crois que ce qui est important pour les téléspectateurs et les auditeurs, c'est qu'ils comprennent une chose. Nous avons besoin, à mon avis, de passerelles entre le public et le privé. C'est pas plus mal que des dirigeants et des expériences d'entreprise, et c'est pas mal aussi que les gens du privé connaissent les contraintes de l'action publique. Sinon, on finit par... c'est un dialogue de sourds. La vraie question, c'est est-ce que c'est encadré? Est-ce que les personnes en question ont respecté les règles qui s'appliquaient? Monsieur Barroso les a respectées. Mais est-ce qu'à un certain niveau de responsabilité, il a été Premier ministre du Portugal et 10 ans président de la Commission européenne, est-ce que surtout dans le contexte très particulier que crée le Brexit, où il risque d'y avoir une négociation dans laquelle les intérêts de la zone euro ne coïncident pas avec les intérêts des banques américaines installées à Londres, est-ce que c'est opportun? À mon avis, c'est peut-être licite, mais c'est pas opportun.
Emmanuel Foulon, José Manuel Barroso, c'est licite parce qu'il a attendu. Normalement, la règle, c'est d'attendre 18 mois après sa sortie de la Commission européenne. Et là, a priori, on peut travailler pour une banque comme Goldman Sachs. Et c'est ce qu'il a fait. Il en a informé Jean-Claude Juncker, qui à l'époque considérait que c'était légitime jusqu'à ce que la Commission européenne fasse marche arrière suite aux articles de presse. Bon, voilà, licite mais pas moral.
Oui, la Commission européenne, pour l'instant, n'a pas un bon bulletin. On peut s'interroger. On a commencé avec une Commission européenne avec des problèmes avec LuxLeaks, on se souvient, avec Juncker et l'évasion fiscale luxembourgeoise. On se retrouve avec l'amnésie de Madame Kroes, qui oublie qu'elle était directrice d'une entreprise qui avait des comptes offshore. On se retrouve avec Barroso qui oublie de dire qu'entre 2004 et 2014, il aurait probablement, il serait probablement fait dicter son agenda législatif et qui part à Goldman Sachs. Moi, j'aimerais bien rappeler que toutes ces amnésies, c'est pas bon pour les citoyens européens. Ça crée vraiment une méfiance et ça donne l'impression qu'il y a que des bandits au commissariat ou à la Commission européenne. Et ça, c'est dangereux parce que ça fait tache d'huile alors qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent bien et vous êtes tenus à une certaine éthique, à une certaine exemplarité, ce qui n'est absolument pas le cas. Je voudrais dire aussi que peut-être ce qui est le plus dommageable, c'est que une fois que tout ça se passe, on n'a pas eu non plus une réaction très rapide de la Commission européenne. Comme si, par exemple, le départ de Barroso vers Goldman Sachs était normal, tout aussi normal que, je sais pas moi, Laure Manaudou qui partirait faire du handball à la place de la natation, alors qu'il aurait fallu que, franchement,
ah, c'est Florent Manaudou, son frère, qui va faire du handball. Elle pourrait aussi, Laure. En gros, ce que dit Emmanuel Sylvie Goulard, c'est clair. En gros, c'est pas tous pourris. Bruxelles, c'est quand même pas la capitale mondiale de la corruption. Ce sont pas tous des Barroso ou des Crous. Aussi.
Non, je crois qu'il faut dire, pour ceux qui nous écoutent, qu'il y a en ce moment 28 commissaires, que si on prend la période considérée, c'est-à-dire 2004 à maintenant, il y a plus de 60 personnes qui auront été commissaires, enfin 60-80 personnes, et qu'on est confronté à deux cas, dont encore une fois, l'un est peut-être indélicat mais pas illégal, et l'autre correspond à un mensonge. Donc je pense qu'il faut raison garder, il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac, exactement comme en France, quand M. Cahuzac a menti sur sa situation fiscale, on n'a pas du tout dit non plus que tous les ministres du gouvernement français étaient tous des pourris.
Donc parlons de Nelly Kroes, sa fameuse société, elle a été enregistrée offshore, elle a été enregistrée en 2000. Nelly Kroes est devenue commissaire européenne en 2004 et cette société, elle devait initialement servir à financer une grosse opération financière, le rachat pour 6 milliards de dollars, c'est pas rien, hein, 6 milliards de dollars d'actifs de la branche internationale énergie de la société Enron. La société énergétique américaine. Problème, à l'époque, Nelly Kroes, du fait de ses fonctions, elle travaillait justement à Bruxelles à la libéralisation du marché de l'énergie. Conflit d'intérêts.
Non, mais là-dessus, encore une fois, Madame Kroes, il faut là aussi expliquer que les commissaires, lorsqu'ils sont désignés, passent devant ce Parlement où ils sont auditionnés et on vérifie deux choses, leurs compétences et d'éventuels conflits d'intérêts. Évidemment, on le fait sur la base d'une déclaration. Nous n'avons pas les moyens d'aller faire des investigations, surtout si quelqu'un cache quelque chose dans un paradis fiscal. Donc c'est bien que les journalistes aient fait apparaître cette question et donc, on peut la prendre la main dans le sac. Elle a menti, ce qui est une situation de violation de règles. Après, est-ce que le système prévoit des sanctions ? Jusqu'à présent, je crains qu'il ne les prévoyait pas, mais on peut imaginer qu'à l'avenir, au moins, on corrige et qu'on arrive à sanctionner ce qui, encore une fois, est une fausse déclaration publique.
Aujourd'hui, il y a un registre des lobbyistes qui existe, mais les entreprises sont seulement incitées. C'est sur une base volontaire. Est-ce que ça doit devenir, c'est le sens des propositions de la Commission européenne cette semaine, est-ce qu'Emmanuel, ça doit devenir obligatoire ?
Tout à fait, c'est indispensable. On a vu que quand on l'a implémenté, quand le Parlement européen l'a fait, on s'est retrouvé avec 6500 candidats, enfin pas candidats, mais lobbyistes. Il faut savoir que sur Bruxelles, on est plus ou moins 32, 33 000 lobbyistes. Ça veut dire qu'il manque énormément de gens, d'une part.
Alors, il y a des chiffres qui circulent dans tous les sens. On a dit 15 000, on a dit 30 000 lobbyistes. Transparency International parle de 90 000, vous êtes belge, alors j'ai failli dire 90 000. 90 000 lobbyistes, personnes impliquées dans du lobbying auprès des institutions européennes. Et il y en aurait 20 000 directement travaillant ici à Bruxelles et seulement 10 000 inscrites dans le registre volontaire.
Oui, à mon avis, les chiffres sont effectivement plus graves que ça, mais c'est difficile aussi de s'enregistrer. Enfin, le problème, c'est que vous avez des gens qui s'enregistrent en tant que personne normale, invitée par un député européen. Vous avez des gens, on pourrait se retourner ici, on pourrait aller dans le couloir. Vous verriez, concentrez-vous sur les prises de courant qui sont sur les murs. Au bout de la prise de courant, il y a un fil, et au bout du fil, il y a un GSM qui charge. En général, c'est de lobbyistes. Il y a des gens qui restent ici toute la journée, qui alpinent quelquefois des députés européens qui traversent et qui ne sont pas nécessairement identifiables. Mais c'est pour ça qu'il faut rendre les choses beaucoup plus claires. Il faut que les députés européens, comme ils le faisaient déjà, reçoivent les personnes de manière concrète, que tout soit enregistré. Sans transparence, il n'y aura pas de possibilité, de nouveau, de créer ce lien avec les citoyens européens.
À la Commission européenne, en fait, tous les échanges, tous les rendez-vous sont inscrits sur des registres. Ici aussi, peut-être au Parlement européen, la Commission, dans ses nouvelles propositions cette semaine, dit que ça devrait être également le cas du côté du Conseil des ministres. Mais ce que regrettent certaines ONG, comme Corporate Europe Observatory qui surveille toutes ces questions de pantouflage et de lobbying de près, c'est que ça ne concerne que les big shots, que les hauts fonctionnaires. Or, les fonctionnaires, les bas fonctionnaires ou les moyens fonctionnaires, je ne sais pas si on peut parler dans ces termes, c'est souvent eux qui sont à l'origine de la législation européenne, c'est eux qui écrivent les premières moutures.
Alors moi, je voudrais dire deux choses. La première, c'est que je crois qu'il faut qu'on cesse de caricaturer le lobbying. Personnellement, je suis sur les questions économiques et monétaires, je pourrais être sur l'environnement. C'est extrêmement important de discuter avec les professionnels. On ne ferait pas bien son travail dans cette maison si on ne discutait pas avec les gens auxquels les lois s'appliquent. Déjà, on nous reproche en permanence d'être dans une tour d'ivoire. Donc moi, je revendique totalement la nécessité de discuter avec des gens qui peuvent être impactés par les législations. Les recevoir et discuter avec eux, ça ne veut pas dire forcément, d'acheter leur camelote. Vous avez des gens qui vont vous faire remarquer. Je prends un exemple très concret. En France, on a des banques mutualistes et on a des banques qui ne le sont pas. Dans les premiers drafts, enfin les premières propositions qui étaient venues de la Commission sur certains textes bancaires, le cas des banques mutualistes n'avait pas été pris en compte. Il n'y a aucune raison de ne pas corriger ça et de ne pas faire des lois qui tiennent compte des différentes structures de capitalistiques et d'organisations d'établissements. Donc, encore une fois, arrêtons de diaboliser le lobbying en tant que tel. Rappelons aussi qu'il y en a beaucoup au niveau national. Donc, moi, ce que je demande, c'est deux choses. C'est d'abord qu'on ne diabolise pas ce qui se passe à Bruxelles sans regarder ce qui se passe à d'autres niveaux de pouvoir. Vous en avez dans les communes qui délivrent les permis de construire, vous en avez au niveau national, on l'avait vu avec l'affaire Servier pour les médicaments en France, c'était absolument terrible l'ampleur du lobbying au niveau national. C'est pas un problème bruxellois, c'est un pouvoir de pouvoir. Et deuxième chose, je crois qu'il faut pas être naïf. Vous pouvez avoir des obligations énormes qui feront que nos bureaux, à la fin, passeront leur temps à faire en quelque sorte, la gestion notariale de nos contacts. Ça n'empêchera pas des gens de mauvaise foi de voir le soir à titre privé dans un lieu privé des gens dont ils veulent pas qu'on sache qu'ils les ont vus. Ouais. Je pense qu'il faut la transparence est une chose excellente.
Et c'est pas
je suis
à
en
Bruxelles.
Faveur.
Non, c'est
exactement.
Pas à Bruxelles, c'est ce que
je suis en faveur de la transparence, mais n'ayons pas l'illusion que quand des gens sont de mauvaise foi, vous savez quelle est la seule garantie? C'est l'éthique des personnes qui sont dans le système. C'est d'avoir des députés qui sont bien choisis, c'est que les partis n'envoient pas n'importe qui à Bruxelles, c'est qu'on soit exigeant sur les commissaires qu'on envoie, c'est qu'on soit exigeant sur le Conseil. Il faut que ça soit valable aussi pour toutes les institutions. Parce qu'on a un peu trop tendance à mettre le projecteur sur le Parlement et la Commission, et on oublie que les ministres qui sont co-législateurs avec nous sont parfois aussi des personnes qui ont des visiteurs du soir, si je puis m'exprimer.
Emmanuel.
Alors, je vais aller dans ce sens, c'est-à-dire que c'est pas propre à Bruxelles, mais les lobbyistes n'est pas sale non plus. C'est-à-dire que, pour vos téléspectateurs, par exemple, Greenpeace est un lobby. L'association des bouchers de quartier, c'est un lobby. Donc, le problème n'est pas vraiment les lobbies, parce qu'ils sont là pour donner leur avis. Et quand vous êtes, rapporteur sur un dossier important, ou même, d'ailleurs, pas nécessairement important, l'idée, c'est d'entendre tout le monde, et vous faites votre travail en recevant ces lobbies. Là où est le problème, c'est si jamais un député fait un copier-coller de l'argument de l'un d'entre eux seulement, alors que ce n'est pas nécessairement son avis. L'idée, c'est de représenter tout le monde, mais d'avoir aussi se faire une idée sur base des gens qui viennent des lobbies. Parce que quelquefois, ils ont un avis plus éclairé, ils ont plus de moyens, et ils peuvent attirer votre attention sur quelque chose que vous ne connaissez pas. Donc le lobby, ce n'est pas le mal. Le mal, ce serait simplement de faire copier-coller, de prendre parti pris pour quelqu'un, alors que pour des mauvaises raisons.
Le mal, c'est la paresse.
Actuellement, le code de déontologie de l'Union européenne et un article, l'article 245 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne prévoit et demande aux responsables européens d'être délicats et honnêtes dans leur façon de gérer ce type de dossier.
Non, mais ne rigolez pas.
En parlant,
ne rigolez pas parce que
vous savez pourquoi je rigole?
Oui.
Parce que juste après la pause, en parlant de délicatesse et d'honnêteté, c'est Jean Quatremer qui va nous rejoindre et c'est pour ça que ça me faisait un petit peu sourire. On se rejoint tout de suite avec Sylvie Goulard et Emmanuel Foulon.
BFM Business, 500 millions d'Européens, l'émission qui va voir ailleurs. BFM Business, 500 millions d'Européens, depuis le Parlement européen à Bruxelles.
Depuis le Parlement européen à Bruxelles, où nous poursuivons notre discussion autour des pantouflards, ces pantouflards de Bruxelles qui donnent un petit peu raison aux populistes ces temps-ci. À Bruxelles, la pantoufle n'est pas encore de verre. Parce qu'on parle de la mise en cause de José Manuel.
C'est vrai que ça s'écrivait hier chez Perrault.
Non, pas chez Perrault.
C'est la fourrure.
Je crois que Balzac, derrière, en a reparlé en disant verre, V-A-I-R, mais Perrault, c'est V-E-R-R-E. Deux affaires récentes. La mise en cause de José Manuel Barroso, ancien président de la Commission européenne, dont l'embauche chez Goldman Sachs a suscité de vives protestations à travers l'Europe, mais surtout en France. Et puis l'embauche de l'ancienne commissaire en charge du numérique, Nelly Kroes, accusée d'avoir été administratrice d'une société offshore aux Bahamas. Toujours avec nous, autour de la table, Sylvie Goulard, eurodéputée à LDE, Alliance des libéraux et démocrates européens, Emmanuel Foulon, conseiller en communication, conseiller politique, j'allais dire, ici en Belgique, auprès des socialistes. Et donc, on avait les libéraux, on a les socialistes, ensuite on a l'extrême droite, avec Jean Quatremer, correspondant de Minute. Alors, la Commission européenne, bonjour Jean, la Commission européenne qui a présenté de nouvelles mesures cette semaine, avec un nouveau registre de transparence, les lobbyistes qui devront s'inscrire obligatoirement sur les registres, à la fois du côté de la Commission, du Conseil des ministres et du Parlement européen, avec une liste plus complète, et puis des sanctions à la clé en cas de non-respect, et puis si, eh bien que ce soit les dirigeants européens comme Nelly Kroes ou bien les lobbyistes, si, eh bien, ils ne disent pas tout à fait la vérité. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Jean Quatremer, de cette affaire ?
L'affaire de laquelle ? Les lobbies ou Barroso ?
De l'affaire du pantouflage, de manière générale, et est-ce que ça entache le peu de crédibilité qui restait aux élites européennes.
Il faut distinguer l'affaire Nelly Kroes, qui était antérieure et concomitante à son mandat, de l'affaire Barroso. Le problème de Barroso, c'est que juridiquement, je veux dire, on ne peut pas empêcher quelqu'un qui a 50 ans d'avoir un boulot ensuite pour la fin de l'éternité. Sauf à se dire qu'on va le payer jusqu'à sa mort sur fonds publics. Alors les mêmes qui aujourd'hui hurlent contre les pantouflages, hurleraient contre le fait qu'on continue à payer si les anciens présidents de la République...
Je l'ai dit avant, voilà, ton arrivée.
Voilà, exactement, oui, parce que j'ai été victime d'une panne de vélo, hein, Yann Anthony, c'est pour ça que je suis en retard. Et donc il faut savoir exactement ce qu'on veut. Alors, le problème de Barroso, c'est un problème essentiellement, et du pantouflage en général, c'est un problème moral, avant d'être un problème juridique. C'est-à-dire que ce sont des gens qui doivent se poser la question de savoir si les fonctions qu'ils vont exercer à la suite de leur mandat sont ou non compatibles avec leur ancien mandat.
Alors, le code de déontologie de l'Union européenne, l'article 245 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, que j'ai retrouvé sur votre blog, Jean, stipule que les membres de la Commission européenne doivent s'engager, je cite, à respecter pendant la durée de leur fonction et après cessation de celle-ci, les obligations découlant de leur charge, notamment les devoirs d'honnêteté et de délicatesse quant à l'acceptation après cette cessation de certaines fonctions ou de certains avantages.
Mais encore une fois, cet article, par exemple, on a tenté de le faire jouer contre Edith Cresson. Edith Cresson, qui était commissaire, pendant qu'elle était commissaire, ancienne première ministre socialiste, commissaire à la recherche du temps de la Commission Santerre, elle a embauché tous ses copains dans des emplois fictifs. Et donc, on l'a poursuivi devant la Cour de justice, au final, et la Cour de justice a dit, ouais, bon, d'accord, c'est pas bien ce qu'elle a fait. C'était pendant ses fonctions, c'est son mandat, c'est même pas du
pantouflage. Et la commission est tombée à cause de ça.
La commission est tombée à cause de ça. Et la Cour de justice, donc, les braves juges, ont dit, bon, c'est pas bien ce qu'elle a fait, mais on va quand même pas la priver de ses droits à la retraite. Donc, vous voyez.
C'est la jurisprudence, c'est la France avant l'heure.
Voilà, exactement, la France avant l'heure. Donc, on est très mal à l'aise parce que comment faire pour empêcher que les choses se passent?
Alors, en même temps, c'est celle de la nomination. Du côté de la Commission européenne, la Commission européenne qui a quand même un comité d'éthique avec des membres de ce comité d'éthique. En gros, si un commissaire qui cesse ses activités veut un job, il demande au nouveau commissaire. Il leur écrit une lettre. C'est ce qu'avait fait Nelly Kroes. Si les commissaires actuels se posent des questions, ils peuvent s'en référer à un comité d'éthique. Comité d'éthique nommé par le président de la Commission. Donc, ceux qui étaient en place encore début juillet dernier, c'était ceux qui avaient été nommés par José Manuel Barroso. C'est pour ça qu'ils ont rapidement
tout ça, été changés. Vous avez toujours.
Et petite
ce
précision,
genre de
Michel Petit, ancien directeur général du service juridique de la Commission européenne, qui faisait partie de ce comité d'éthique, qui présidait même, il avait organisé des réunions avec ses anciens collègues pour les conseiller à propos de la directive européenne sur les produits du tabac, tout en conseillant, parce qu'il était conseil de Philip Morris International.
Non, mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure. L'éthique et la capacité des individus à être honnêtes, c'est pas parce qu'il y a marqué éthique sur un comité qu'il est éthique. Ça vient de la qualité intrinsèque des personnes. Et effectivement, toutes nos sociétés, mais encore une fois, pas seulement au niveau européen, souffrent d'un copinage exacerbé. On en a en France, dans des tas d'instances, on en a ailleurs. Donc, je crois qu'il est sain que maintenant les médias aident à progresser. Je pense qu'il faut faire des progrès, mais sans tomber dans une espèce de naïveté qui consiste à créer des règles qui sont incontrôlables. Parce que moi, je parle toujours du Thalys, et c'est amusant parce que le commissaire Hill, l'ancien commissaire britannique, avait dit la même chose pour l'Eurostar. Qu'est-ce que vous faites, par exemple, quand, comme des gens comme nous, on prend l'Eurostar, le Thalys très souvent? Alors, vous allez avoir un registre pour les gens que vous rencontrez à Bruxelles, et par hasard, vous vous retrouvez assis dans le train à côté de quelqu'un qui vous avait demandé un rendez-vous et à qui vous ne l'aviez pas donné. C'est un cas de figure qui nous arrive. Et donc après, on peut vous prendre en photo, on peut dire que vous avez discuté avec lui. Moi, je ne discute pas de choses sérieuses dans le Thalys parce que ça ne me paraît pas l'endroit approprié. Mais je vous dis, il y a ce risque. Donc oui, il y a des progrès. Non à la naïveté. La meilleure chose à faire, c'est de nommer des gens de qualité et de veiller à ce qu'il y ait une certaine restauration de la morale publique. Mais une fois qu'on a dit ça, c'est pas non plus évident de savoir comment on peut y arriver.
On savait quand même dès le départ que Barroso était quelqu'un qui était une branche pourrie. Je veux dire, il faut quand même arrêter. Nelly Cruz, c'était la même chose. C'était pas un
mystère. D'ailleurs, elle est chez Uber et personne n'en parle. Oui, ça, je trouve ça extraordinaire. Elle a fait une lettre contre la décision de Madame Vestager. Moi, ça m'a choqué plus que une histoire qui est vieille de plus de 10 ans. Elle a, en septembre, fait une lettre dans laquelle elle s'insurge contre une décision de son successeur parce que, en fait, elle-même est dans une boîte américaine qui pratique l'optimisation fiscale. C'est quand même un peu gros, ça. Ouais. Et là-dessus, personne n'avait réagi.
Elle avait siégé dans les conseils d'administration de 43 grandes sociétés comme Volvo ou Thales avant d'être nommée commissaire. Voilà
oui.
Pour.
Oui, mais c'est la preuve aussi que du coup, on n'apprend rien parce que c'est des choses qui sont déjà arrivés. On a vu aussi à l'EFSA à l'époque, la directrice de l'EFSA, qui finalement avait...
C'est l'agence qui s'occupe des médicaments.
De sécurité alimentaire. Et qui, en fait, avait bidouillé son CV. On s'en est rendu compte plus tard. C'est quand même dommage que chaque fois, il faille un tiers pour pouvoir s'éclairer sur les problèmes des gens. Donc on a Wikileaks, on a LuxLeaks, on a des journalistes qui finalement investiguent parce que au Parlement européen, aux institutions européennes de manière générale, on n'a pas les moyens d'investiguer. On a vu Almunia aussi avec Google à l'époque. Google est poursuivi
Joaquin pour Almunia, l'espagnol socialiste qui était le commissaire,
qui était commissaire à la concurrence. Et Almunia est saisi du dossier Google qui est condamné, enfin pas condamné mais accusé d'abus de position dominante. Google va dans le bureau, ressort du bureau avec une position réconfortée. C'est-à-dire que c'est un peu comme si vous faites arrêter sur l'autoroute pour excès de vitesse et non seulement on vous donne pas d'amende, mais en plus on vous redonne des points. Donc chaque fois,
en France, on a des hauts responsables de la police qui étaient en garde à vue hier. Hein. Oui. C'est malheureusement, enfin, je veux pas dire dans tout système politique, il peut y avoir à un moment donné des ratés. Oui. Il faut les traquer, mais c'est pas seulement.
Je rappelle quand on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait?
Mais parce qu'il faut du pantouflage, c'est beau, mais s'il faut des coups de savate derrière pour prendre
encore là. Si on prend le niveau européen, est-ce que l'Europe produit sa propre élite? Non. L'élite européenne, elle vient des États-nations.
Et elle est de passage, finalement.
Et elle est de passage, voilà.
Qui était nommé Premier Exactement. Ministre au Portugal, il est devenu président de la Commission, et puis il est reparti.
Voilà, nous n'avons pas... Mais c'est des gens qui sont nommés par leur gouvernement à la Commission, mais
ils sont pas des purs produits.
Les députés européens, c'est la même chose, les députés européens sont nommés par les partis nationaux. Voilà, c'est simple, c'est pas par des partis européens. Donc les gens ne font pas carrière au niveau européen. C'est pas une fédération européenne, c'est une confédération d'États. Donc si les États envoie des députés ou des commissaires qui sont moralement douteux, qui ont peut-être un passif qui n'a jamais été mis à jour. D'ailleurs, je sais qu'elle se prenait
ou qui a été mis à jour pour certains. C'est ça qui est quand même le plus intéressant. On donne, le cas échéant, une immunité parlementaire.
Exactement. Donc, si à partir du moment où les États les envoient, vous croyez que le Parlement européen ou la Commission ont des pouvoirs d'investigation supérieurs à ceux de la magistrature dans nos pays? Je veux dire, imaginez demain que une commission du Parlement européen aille en France ou aille aux Pays-Bas. Ils disent, ah ben on va enquêter sur Nelly Cruz. Et les types, comme le FBI, arrivent. Qu'est-ce qui va se passer? Mais il y aura des gens sur BFM, par exemple, qui vont dire, mais c'est incroyable! Mais le Parlement européen, de quoi il se mêle? Mais ils prennent le travail de nos juges. Et puis c'est une attaque à nos souverainetés. Donc évidemment, c'est absolument impossible. Tant qu'on n'aura pas une vraie fédération avec une élite qui sera vraiment fédérale, on peut pas imputer à Bruxelles, en fait, une faillite morale qui est imputable à nos États.
Sachant qu'à l'époque, Barroso, au moment de la nomination par les Pays-Bas, au moment de la composition de la Commission 2004, il savait qu'il y aurait certainement des problèmes avec Nelly Cruz et qu'elle avait potentiellement quelques casseroles, mais il y avait déjà eu le cas de Rocco Buttiglione, le commissaire italien envoyé par Berlusconi. Il y avait déjà eu des problèmes, lui il avait été retoqué, il ne pouvait pas se permettre d'avoir encore un autre commissaire retoqué vis-à-vis des Pays-Bas notamment.
Mais c'est là qu'on est dans la connivence. Non, je ne suis pas d'accord. Moi j'ai travaillé avec Romano Prodi. Romano Prodi, quand il avait constitué sa commission, il avait dit « Les États m'envoient des gens, mais je suis libre de les accepter ou de les récuser. Oui. C'est la responsabilité du président. Si vous vous fâchez avec un pays, ben vous vous fâchez avec un pays. Mais aux Pays-Bas, il n'y a pas que Madame Kroes. Et d'ailleurs, il y a des gens aux Pays-Bas en ce moment qui ne sont pas ravis de ça. Donc arrêtons de prendre les gens en otage d'un système national qui dysfonctionne. Ce qui est important, c'est que quand on compose la commission, et Jean Quatremer a bien fait de dire que ce sont les États qui envoient des personnes, de même que les partis devraient vérifier qu'ils envoient des personnes dont les CV ne sont pas bidouillés et qui n'ont pas ce que vous avez appelé des casseroles, parce que ça nuit après au système. Mais on ne peut pas se dédouaner de sa propre responsabilité et se plaindre ensuite que, oui, si vous voulez... La connivence est ce qui permet ce genre de choses. Si vous dites qu'il n'était pas en mesure de, le pauvre petit, mais ce n'est pas le pauvre petit, c'est le président de la commission.
Et je rappelle quand même que Buttiglione, à l'époque, donc commissaire italien désigné par Berlusconi, est tombé non pas parce qu'il avait fait des erreurs ou des fautes dans son pays, c'est parce qu'il a répété devant le Parlement ce qu'il pensait, donc des déclarations homophobes et contre les femmes. Il l'a dit devant le Parlement. Et là, le Parlement... a pu le faire tomber.
Mais vous n'arrêtez pas de tenir ce genre de propos, Jean Quatremer. Vous restez pour autant en poste.
Mais jamais
pour
devant le Parlement européen.
Jamais
dans le Parlement
idiot.
C'est ça. Je suis pas totalement idiot. Je le fais en buvant des coups avec vous avant que vous rouliez sous la table. Cher Andrew.
Ce qui est marrant, c'est que finalement, il est tombé, mais il est tombé pour avoir été honnête.
Qui, moi ou Rocco?
Je parlais
de Rocco.
Il est tombé pour avoir été honnête.
Si on commence à confondre Jean et Rocco,
c'était totalement contre. Évidemment. C'était contraire aux valeurs de la Charte des droits fondamentaux qu'il était censé faire appliquer.
Bien sûr, mais tant mieux.
C'est pour ça que le Parlement l'a été très à l'aise. Alors que, par exemple, Nelly Kroes, on savait déjà qu'elle avait siégé dans plein de conseils d'administration. On savait qu'elle était l'amante d'un mafieux qui, depuis d'ailleurs, a fait de la prison. Tout ça se savait. Mais comment on fait tomber quelqu'un uniquement sur des rumeurs, alors que dans son propre pays, sa justice ne l'a pas fait tomber?
Et donc, on doit se contenter de flagrant délit, et c'est bien ça le problème. Et on est en Europe, en plus, beaucoup plus fragile.
D'un mot, parce qu'on dépasse.
Quand même, les auditions au Parlement européen, ça va plus loin que ce qui existe dans tous les États membres.
Exact.
Je vous signale qu'en France, on nomme des ministres sans qu'il y ait eu mais un tant soit peu contrôle de leurs compétences et de leurs conflits d'intérêts. Ils ne passent pas devant le Parlement
même
avec
sachant,
la Constitution.
Gilles Pargnaud, eurodéputé socialiste, avait dit sur ce même plateau ici qu'à l'époque où il était à l'Assemblée nationale, il était à l'époque conseiller parlementaire de Martine Aubry à l'Assemblée nationale, et il savait que sur toutes les questions de médicaments, il fallait jamais prendre des infos passées par Cahuzac, parce qu'il savait qu'il y avait des conflits d'intérêts. Et pour autant, malgré ça, il est quand même devenu ministre derrière.
C'est important qu'on le dise aux auditeurs, parce que tout le monde dit le système européen est défectueux, alors qu'il est probablement imparfait, mais qu'il représente un degré supplémentaire de garantie pour les citoyens, alors qu'au niveau national... aucun contrôle.
Merci beaucoup, Sylvie Goulin. Vous n'êtes jamais sous contrôle non plus. Vous avez toujours la parole libre.
Ici, oui, je
notamment
vous
dans cette émission.
C'est une émission qui élève le débat.
Oui, on va dire ça.
Grâce à Yolande,
pas pendant les pauses. Merci beaucoup, Sylvie Goulin, eurodéputée de l'ALDE, l'Alliance des libéraux et démocrates européens. Quatremer, Foulon, vous restez avec nous. On va être rejoint par Maya Delabaume et Éric Scholl de Courrier International. Et Maya de la Baume va nous parler notamment de Matteo Renzi, le dirigeant italien qui va bientôt devoir faire face aux urnes, et il s'est lancé dans une campagne d'eurobashing. A tout de suite.
BFM Business, 500 millions d'Européens, l'émission qui va voir ailleurs. BFM Business, 500 millions d'Européens, avec Euranet Plus. Yann Anthony Noguès.
Voilà, merci de nous retrouver ici à Bruxelles pour 500 millions d'Européens, toujours avec nos complices. Alors, il y a un vieux de la vieille, Jean Quatremer de Libération, Minute et le blog Coulisses de Bruxelles. Nouveau collaborateur de Patrick Buisson. Il se vend bien votre livre. Vous l'avez aidé. Vous faisiez les enregistrements d'ailleurs.
Est-ce que vous voulez une anecdote concernant Nicolas Sarkozy que
Jean Quatremer n'a pas raconté.
Allez-y. Ça se passe en décembre 2008, à l'issue de la présidence française, dans le bureau de Nicolas Sarkozy, où il a reçu 4-5 journalistes pour rendre compte de sa présidence. Et puis, il était enthousiasmé de sa présidence de l'Union européenne. Et à la fin, donc, il vient discuter avec nous. Et moi, je lui dis, mais écoutez, vous avez l'air tellement enthousiasmé que l'année prochaine, on va nommer le premier président du Conseil européen des chefs d'État de gouvernement. Est-ce que le poste vous intéresserait pas? Et là, il me regarde. Quatremer, dit-il en me tapant sur la poitrine. Quatremer. Moi, franchement, le jour où je suis plus président, eh bien... je fais des conférences, je gagne un max de thunes et je m'occupe de Carla. Parce que Carla, à Quatremer, elle est quand même pas mal.
Voilà.
Authentique. Ma mâchoire s'est décrochée. Et c'est vrai que lorsque je lis maintenant les anecdotes racontées par Buisson, ça correspond assez en partie, en tous les cas, au personnage. C'est-à-dire ce que j'ai pu entendre lui entendre dire en off.
Emmanuel Foulon est également avec nous, conseiller en communication du Parti Socialiste Belge. Vous avez une petite anecdote sur Elio Di Rupo ?
Non, je suis content d'être toujours en vie. Enfin, j'ai regardé le compte Twitter
Pourquoi
de Christine.
Pourquoi c'est avec Elio ?
J'ai regardé le compte Twitter de Christine Boutin, donc visiblement, je suis toujours en vie et tout va bien.
Ah oui, d'ailleurs, vous avez fait un tweet la semaine dernière sur Christine Boutin. D'ailleurs, vous avez fait un tweet en disant « Pourvu que Jacques Chirac vive suffisamment longtemps pour annoncer la mort de Christine Boutin ». Vous avez eu, je crois, 1300 retweets ou quelque chose comme ça.
Oui, tout à fait. Mais on parlait d'éthique tout à l'heure. Honnêtement, s'il y a bien un manque de classe, c'est la sortie de Boutin sur la mort de Chirac.
Et Yann Anthony est toujours vivant.
Bonjour, Maïa de la Baume. De Politico, comment tout allez-vous ?
Très bien.
Vous allez nous parler de Matteo Renzi, qui pour survivre tape sur l'Europe.
Oui, absolument. Qui est furieux, mais qui est très souvent furieux en ce moment.
Et juste après, on sera rejoint par Eric Scholl, patron de la rédaction de Courrier International, qui pour nous a lu cette semaine la presse allemande, la presse danoise, la presse bulgare et la presse espagnole. Demandez le programme de 500 millions d'Européens pour réagir sur Twitter, justement, hashtag 500ME.
BFM Business, avec 500 millions d'Européens, pénétrez dans les coulisses de l'Europe.
On va pénétrer dans les coulisses de l'Europe en parlant de la botte de l'Europe. Matteo Renzi, qu'est-ce qu'il veut ? C'est quoi son problème ?
On l'aime bien, nous, Politico, Matteo
Politico.
Renzi. On peut parler comme ça pendant toute l'émission.
Si vous voulez.
Moi, ça me plaît beaucoup.
Alors, ce qu'on va faire, c'est que Emmanuel Foulon va prendre son meilleur accent belge. Vous allez prendre l'accent italien. Puis Jean Quatremer, son petit accent de papy.
Écoutez, ça va, Quatremer est arrivé à un quart d'heure en retard.
Moi, je viens du sud. Je suis un homme. Je viens d'Algérie, quoi.
Ouais, c'était voilà. Juste un petit délire comme ça. Vous n'étiez pas forcé de prendre la balle au bon.
Allez, continuez.
Non, nous, on aime bien Matteo Renzi à Politico parce que il met un peu de piment quoi, dans l'Union européenne, non ? Tu es d'accord avec moi, j'en sais. Et du coup, là, cette semaine, plein d'aventures. Alors, il était furieux parce qu'il n'a pas été invité à la conférence de presse de Merkel et Hollande à Bratislava. Tous les journalistes le savent, puisque tout le monde a rebondi là-dessus. Il n'est pas content parce que Donald Tusk n'a pas envoyé de condoléances à Carlo Azeglio Ciampi, qui est le grand président que tous les Italiens adorent. Donc, c'est un peu une sorte de grande maladresse.
Sachant que Donald Tusk, lui, c'est le grand président que tous les Européens
que
adorent.
Que tous les Européens adorent, oui. D'ailleurs, on enverra, nous, beaucoup de messages pour ses condoléances.
Moi, j'aimerais
d'accord. Il n'a pas encore annoncé le décès de Donald Tusk.
La photo de Donald Tusk en arrière-plan, ça serait pas mal derrière vous.
D'accord.
Qui nous regarde d'un air bienveillant.
En télévision.
Donc il est furieux parce qu'il n'a pas été non plus invité à une réunion importante de encore Hollande et Merkel la semaine dernière à Berlin. Donc en fait, il n'est pas content parce qu'il a l'impression que l'Italie est un peu hors-jeu. Nous, on a parlé à beaucoup d'analystes qui disent que justement, il ne faut peut-être pas trop sous-estimer Renzi parce qu'il y a un référendum qui va arriver le 4 décembre, mais ça va être, je pense, un référendum important. Parce que le résultat est très très serré entre le oui et le non, qui sera sans doute forcément, pas sans doute, mais une sanction contre ces réformes à lui en Italie. Et je pense qu'après le Brexit, Renzi, c'est un peu devenu le... On dirait en anglais le risk trigger, ça veut dire il risque d'être une sorte de détonateur parce que si le résultat est négatif, ça pourrait être un vrai désastre politique.
En l'occurrence, trigger, c'est la gâchette, mais on peut parler de détonateur en français. Emmanuel, qu'est-ce que vous en pensez de Matteo Renzi ?
Honnêtement, moi, ce qui me tue, c'est qu'il ait mis en balance sa démission dans le résultat de ce référendum. Donc, quelque part, il se tire une balle dans le pied parce que on avait une droite qui était quand même assez explosée. On avait des frustrés de gauche, pas des frustrés de gauche, mais il avait frustré des gens à gauche qui maintenant, d'ailleurs ici, même parmi ses collègues au Parlement européen, des socialistes italiens, font campagne pour le non. Donc, il se retrouve déforcé, il se retrouve à jouer sa carrière, alors que ce n'était pas du tout le cas il y a encore quelques semaines.
Voilà, Emmanuel Foulon, ce qui me tue, vous avez commencé comme ça, et puis ensuite, il se tire une balle dans le pied. Emmanuel Foulon, le sniper autour de la table. du lobby des armes.
Il fait quand même des déclarations très, un peu comme revancharde contre l'Europe ces derniers temps. J'en ai une là, il disait juste après, justement la semaine dernière, s'il pense me faire peur, en parlant de l'Union Européenne, il s'adresse à la mauvaise personne, et s'il pense faire peur à l'Italie, ils ne savent pas de quoi nous sommes capables.
Paradoxalement, Sarkozy a fait le même genre de choses il y a quelques années aussi pour se renforcer le protecteur de l'État, quoi.
Genre. Lors du sommet de Bratislava, le 16 septembre dernier, c'est cette fameuse conférence de presse, en réalité, ce qui est intéressant avec Rezi, c'est qu'il dit ce qui se passe vraiment dans les conseils européens. Parce que là, maintenant, moi, je suis extrêmement fâché.
C'est pas des conférences de presse à l'eau tiède. Non, lui, il parle vrai.
Oui, comme, j'irais comme Orban, comme les Polonais, etc., où il raconte vraiment ce qui se passe. Moi, les conférences de presse de Merkel et de Hollande, c'est totalement insupportable. Ils nous mentent. À Bratislava, ils nous ont servi un conte de fées où tout s'était bien passé. Ils ont parlé d'esprit de Bratislava, etc. Il a fallu aller entendre Matteo Renzi pour dire, attendez, on est d'accord sur rien. Les problèmes de fond n'ont pas été abordés. L'Italie, on a laissé tomber l'Italie sur le problème de l'immigration et des réfugiés. On s'en retrouve tout seul. Et Orban, lui, par ailleurs, qui, pour la première fois, fait une conférence de presse en anglais pour bien être compris par la presse internationale, a dit, bon, d'accord, ils ont lâché sur la répartition obligatoire des réfugiés. D'accord. Mais on va quand même faire notre référendum pour montrer que la Hongrie, elle est bien là. Donc, en clair, le fameux esprit de Bratislava n'a pas soufflé. Et heureusement que Matteo Renzi, et à chaque fois, il le fait à chaque conseil européen, il faut aller écouter Matteo Renzi parce qu'il dit les choses. Et on peut lui en être gré parce qu'il assure un minimum de transparence dans cette boîte noire de la démocratie qu'est le conseil européen.
Donc c'est lui qui a raison, alors.
Oui, mais,
il a raison.
Mais non, attention, parce que, enfin, pour moi, c'est aussi beaucoup de calculs politiques là-dedans parce que en Italie, si tu regardes les choses telles qu'elles sont dans le pays, enfin, je veux dire, les eurosceptiques sont très forts. Il est très content aussi de pouvoir amener un maximum.
C'est l'absurdité de Beppe Grillo et du mouvement 5 étoiles.
Oui, 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 oui. Et puis de la Lega Nord, il y a beaucoup d'autres partis. C'est aussi un. C'est très rodé comme discours aussi.
Voilà. Non, c'est pour ça que ça m'étonne, Jean. Je suis d'accord avec vous sur
la transparence.
Il tient un discours de vérité, comme on pourrait dire. C'est pas toujours à la mode de dire ça en France. Mais d'un autre côté, c'est un peu où je risque ma carrière. Mais d'un autre côté, il surfe un petit peu sur une vague.
Oui,
c'est la faute à Bruxelles.
Oui,
c'est la faute.
En même temps, c'est pas nécessairement. Enfin, on peut dire la vérité et dire de temps en temps les choses qui ne font pas à l'Europe. Tout en n'étant pas eurosceptique aux réformes. Mmh. Parce que quelquefois, justement, détecter les problèmes et dire, voilà, ça ne va pas, parce qu'effectivement, au Conseil, il n'y a rien qu'à fonctionner, c'est constructif. S'il y a une remise en question derrière, et si on fait les choses bien, effectivement aussi qu'il y a un calcul national, il y a un calcul européen, je suis d'accord, mais ce n'est pas faire de l'euroscepticisme.
Par exemple, on peut dire Quatremer, tu me gonfles d'être arrivé 15 minutes en retard sans être un anti-Quatremer. C'est une remarque constructive.
Moi, ça m'a permis de parler plus, donc finalement.
Oui, d'accord. C'est tout, Maya, vous aviez un élément. Supplémentaire.
Non, mais ça veut dire que je vais pouvoir arriver en retard aussi moi-même, s'il le fait, si Jean le fait, moi aussi.
Ça va devenir un concours et je sens que Yann Anthony va vieillir rapidement.
Heureusement, on a des gens fiables.
Tu vas finir encore
ici,
par dire qu'à Bruxelles, il n'y a pas de mobilité.
Éric Scholl avec sa revue de presse européenne.
BFM Business, 500 millions d'Européens, la revue de presse.
Allô, est-ce qu'Éric Scholl est là ?
À l'heure, je suis là.
Oh, mais voilà, Éric Scholl. Et c'est pour ça, et vous savez, Éric Scholl, c'est pour ça que vous êtes le directeur de la rédaction de Courrier International. Si Quatremer était capable d'être ponctuel, peut-être qu'aujourd'hui, ce ne serait pas un simple grouillot de la rédaction de Libération. Peut-être qu'il aurait des responsabilités. Éric, alors on commence avec vous par le Danemark. Barroso, la retraite en plus.
Mais c'est le journal danois, donc le quotidien, le Politiken, qui a sorti cette semaine à la une photo d'un Barroso tout sourire et qui nous explique que ça y est, il touche déjà sa retraite, que non seulement ben voilà, il a ses émoluments Goldman Sachs, mais ça y est, il touche déjà sa retraite de la Commission européenne. Et alors effectivement, les journalistes de Politiken se sont renseignés, ils ont fait des calculs, là ils arrivent à une retraite de 7 000 euros par mois. Alors en fait, il nous explique que Barroso, s'il y avait attendu ses 65 ans, il aurait pu gagner plus, il aurait pu gagner 10 000 euros par mois, mais il a voulu tout de suite faire valoir ses droits, et donc il touche 7 000 euros par mois, ce qui fait un peu sourire, si on peut dire, les journalistes de Politiken.
Voilà, mais a priori, ça devrait quand même. Il y a eu tellement de critiques autour de ça que ça pourrait forcer la commission à agir et à peut-être changer un petit peu.
Vous rêvez, Anthony.
Emmanuel Foulon. Non, mais je suis assez d'accord, mais c'est bien aussi la preuve que pour l'instant, on est dans une Europe fragile parce qu'on n'ose pas prendre des réformes, on n'ose pas faire des choses qui rendraient les choses beaucoup plus claires, beaucoup plus simples. On est vraiment dans une mauvaise passe.
Non, mais c'est surtout que ça montre ce qu'est Barroso. Parce que Barroso, là, on est quand même passé de la faute de goût, la faute morale, à la crapulerie pure et simple. Je veux dire, que le fait que Barroso travaille chez Goldman Sachs, vous imaginez le salaire ?
C'est comme ça qu'il a conduit l'Europe pendant 10 ans.
Moi, c'est comme ça que je l'ai toujours interprété. C'est pour ça que j'ai été un de ses critiques les plus virulents, ce qui m'a valu d'être blacklisté pendant 10 ans quand même. En 10 ans, je n'ai eu aucun accès à Barroso et à son entourage. Que les choses soient dites.
Ce qu'il fallait payer ?
Et parce qu'il fallait être gentil avec Barroso. Il fallait être gentil avec Barroso. Et donc, moi, dès le départ, j'ai été extrêmement critique à son égard. Et ce qu'on voit, le personnage, ce qu'il montre, c'est à quel point il est avide. Vous savez, c'est greed. Greed is good, disait-on dans le film de Wall Street. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il a pris une retraite anticipée pour toucher ses 7000 euros. Donc, il y a une décote, évidemment, parce qu'il la touche à partir de 60 ans. Et par ailleurs, il a un salaire qui doit être, si c'est pas 100 000 euros par mois, à mon avis, ça doit pas être très loin chez Goldman Sachs.
Alors, direction maintenant la Bulgarie avec vous, Eric. Les pays de Visegrad, les fameux pays de Visegrad, mènent-ils une sorte de révolution en Europe?
Oui, alors le journal Capital, l'hebdomadaire bulgare de Sofia Capital, s'est intéressé. Ce qu'il appelle la bande des quatre, c'est-à-dire la Pologne, la Hongrie, la République tchèque et la Slovaquie, donc les pays de Visegrad, qui avaient pris cette dénomination, rappelez-vous, c'était il y a 25 ans, et c'était à l'époque pour accélérer leur adhésion à l'Europe, de l'Europe centrale à l'Union européenne. Eh bien, aujourd'hui, les mêmes pays fustigent les diktats de Bruxelles, avec en tête ce que le journal appelle les deux mauvais garçons de l'Europe de l'Est, le Premier ministre Viktor Orban, le Hongrois, et puis aussi eh bien, le Polonais Jarosław Kaczynski, qui est le leader du parti Droit et Justice en Pologne, qui est au pouvoir donc en Pologne, et qui veulent mener une contre-révolution culturelle. Voilà, le journal bulgare nous raconte tout ça, ce projet d'une autre Union européenne. Et quand même, il arrive à la conclusion, pour arriver à constituer un véritable pôle alternatif à Bruxelles, bien les quatre pays de Visegrad, qui ne totalisent que 63 millions d'habitants, vont devoir attirer d'autres membres.
Voilà, il y a l'eurobashing à l'italienne, mais qui est quand même empreinte d'europhilie. Et puis là, il y a le groupe des quatre, hein, Pologne, Hongrie, République tchèque et Slovaquie, le groupe de Visegrad. Manu Foulon.
On a tendance à croire que dans ce pays-là... Peut-être qu'ils étaient assez contents du résultat du Brexit, mais j'aime à rappeler que l'Europe, c'est des droits et des devoirs. C'est-à-dire
c'est vrai que vous aimez à rappeler ça.
Oui, et avec plaisir, et même en off, si vous voulez. Mais l'Europe ne doit pas juste constituer un distributeur automatique d'argent, c'est-à-dire que vous devez aussi travailler, gagner ensemble et perdre ensemble. Et c'est un peu trop facile maintenant de vouloir... on sent bien que ces pays sont dans un élan ultra-conservateur. En Pologne, par exemple, on va criminaliser l'avortement. De l'autre côté, en Hongrie, on criminalise les sans-abri, on criminalise la presse. Enfin, on est maintenant dans une Europe à deux vitesses. Et là aussi, il y a une réponse européenne à donner. Mais les règlements actuels européens ne le permettent pas. Parce que même si vous êtes un pays européen et que vous faites quelque chose de très grave, l'article 7 ne suffit pas. L'article 7, ça veut dire que l'ensemble des pays européens devraient sanctionner celui qui n'a pas bien fait les choses. Or, ça n'arrive jamais parce que ce n'est pas possible techniquement. Il faut changer les règles européennes.
Non, pour revenir sur le V4, le V4, c'est drôle parce que ça fait très longtemps que ça existe et
donc
il est
V4,
visible.
Visegrad,
qu'on appelle V4. Ils existent depuis très longtemps et en fait ils sont visibles que depuis l'année dernière. Enfin, parce que pour tout ce qui est sujet de la migration, on en a entendu parler parce qu'ils ont créé un vrai groupe de pression et à chaque sommet européen, maintenant, on attend le communiqué de presse du Visegrad.
Des râleurs.
Des râleurs.
Non.
C'est pas des râleurs.
Attention, il faut voir que le groupe de Visegrad est en train, effectivement, je trouve que le mot contre-révolution est intéressant, est en train d'imposer sa vision de l'Europe aux autres pays européens, contrairement à ce qu'on croit. C'est pas des minoritaires qui gueulent dans leur coin. Bon, ils sont réac, tout ce que vous voulez. Mais au fond, la vague réactionnaire partie de l'Est, elle est chez nous. C'est-à-dire que bon, la France, elle n'est pas particulièrement de gauche. Cherchez aujourd'hui les gouvernements de gauche en Europe, il n'y en a quand même pas des masses. Et donc, par exemple, la vision de Orban sur l'immigration, elle a triomphé. Moi, je parlerai d'urbanisation de l'Europe, de visegradisation de l'Europe. C'est osé, celle-là. Et donc, moi, c'est vraiment des... Ils ont une idée contre-révolutionnaire et ils sont en train de gagner parce que face à eux, il n'y a pas de volonté politique de faire plus, de faire plus d'Europe.
Je sens qu'il s'énerve, il a besoin de ses petits cachets. Qui accueillera l'Agence européenne des médicaments, Eric?
Voilà, on parlait du Brexit et voilà un sujet bien concret qui en tout cas agite la presse espagnole et en particulier ce site d'information qui est un pure player de Barcelone, Crónica Global, qui se demande où va atterrir l'agence en Espagne. Alors en fait, on n'est pas du tout sûr qu'elle va arriver en Espagne, mais le journal, lui, nous donne déjà 8 villes qui sont dans la compétition. Alors je vous en donne quelques-unes, évidemment Barcelone, mais Alicante, Malaga, Grenade, Saragosse. Et pourquoi? Parce que, évidemment, cette agence avec ses 335 millions d'euros de budget annuel et ses 900 euros fonctionnaires, elle attire toutes les convoitises et Barcelone et serait en tout cas bien placée. Barcelone qui accueille plus de la moitié des labos espagnols. Donc Barcelone s'y croit, les autres autres s'y voient déjà, mais quand même, le journaliste conclut, ce serait quand même une surprise pour tout le monde si l'une de ces villes espagnoles était finalement sélectionnée face à des concurrentes comme Rome, Stockholm, Berlin et Copenhague. En tout cas, la compétition est ouverte.
On parle de Lyon en France, on parle de Lyon, quatre mers, Jean.
Absolument, les Français sont aussi sur les rangs. Lyon, Strasbourg, il y a au moins quatre villes françaises qui sont intéressées. Donc la répartition des dépouilles a commencé, ce qui réjouit mon âme, évidemment, de brexiteur farouche.
En Belgique, Emmanuel Foulon, a priori, pas de candidat.
A priori, les médicaments, c'est pas pour nous, à part pour les consommer peut-être.
Non,
d'accord. Ceci dit, il faut quand même juste se méfier sur la répartition des institutions parce que ça pourrait, à terme, redonner les cartes de manière beaucoup plus globale sur des institutions plus importantes.
Là, en l'occurrence, c'est les agences, Maya. Non.
Voilà. Non, c'est très bien pour la France, ça serait bien.
Merci beaucoup pour cette intervention.
Brillante.
Brillante.
J'en profite
pour montrer Courrier International, les Français, ces incompris avec cette poule en burkini sur une plage de France, j'imagine. Merci beaucoup. Éric Scholl, patron de la rédaction de Courrier International, merci pour votre revue de presse européenne. Merci Maya de la Baume pour vos coulisses et nous avoir parlé de l'Italie.
Oui.
Merci Jean-Claude. Quatre-mères de Libération et du bloc coulisses de Bruxelles. Merci Emmanuel Foulon, maintenant Manu Foulon, conseiller en communication. Big John Quatre-mères et Emmanuel Foulon, conseiller en communication du Parti socialiste belge. Quant à vous, je vous remercie d'avoir suivi cette émission qui a été préparée par Alexandre Rougier, le bien nommé. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de 500 millions d'Européens, même jour, même heure. D'ici là, bonne fin de week-end à tous à l'écoute, évidemment, de BFM Business.
BFM Business, 500 millions d'Européens, l'émission qui va voir ailleurs.